Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école sacrée Charlemagne? Enfin, pas vraiment. Et si, comme pour l'école, son règne, ses faits d'armes n'étaient en réalité, si ce n'est une vaste supercherie, une succession de petits arrangements avec la réalité des faits? Car oui, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, l'école, la Charlemagne, n'y est absolument pour rien. La réalité historique est quelque peu différente. L'école a vu le jour bien avant les Carolingiens et donc bien avant Charlemagne. Mais alors pourquoi cette réputation de père de l'école? Il s'agit d'une réécriture partielle de l'histoire, car avec la chute de l'Empire romain, les monastères étaient, il faut le savoir, devenus les seuls lieux de transmission du savoir. Charlemagne s'est engagé à soutenir, développer le catholicisme sur tout son territoire. Alors, en 789, il fait éditer l'Admonitio Generalis, un texte qui exige la fondation d'écoles et de centres de correction de textes sacrés dans chaque monastère et chaque évêché. Ce texte n'est pas le seul à promouvoir la religion catholique. Charlemagne fait promulguer d'autres édits qui enjoignent fermement les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le clergé s'engage de son côté à instruire gratuitement les élèves. Mais l'objectif du roi des Francs n'est pas de former une future élite intellectuelle, culturelle, qui s'illustrerait par son savoir. Charlemagne veut que les élèves puissent devenir des administrateurs efficaces. Lire, écrire et compter, oui, mais au service de Dieu. Charlemagne n'a donc pas inventé l'école, mais il l'a développée. Une louable ambition, lui qui n'a jamais brillé durant son enfance par ses grandes qualités intellectuelles. Davantage attiré par les combats, les exercices physiques, ce n'est que plus tard qu'il se découvre une soif irrépressible de connaissances. Petit Charles se voyait déjà grand alors qu'à sa naissance, rien ne le prédestinait à un destin hors du commun. 742 ou 748. Sur sa date de naissance déjà, les sources divergent. Quant au lieu où Charles dit Carolus Magnus en latin a vu le jour, il n'y a pas plus de consensus. Est-ce à Liège dans l'actuelle Belgique ou à Aix-la-Chapelle dans l'actuelle Allemagne? Ce qui est certain, c'est que quand il naît, Charles est loin de s'imaginer, sa famille aussi, qu'un jour il deviendra roi des Francs et encore moins empereur. Car dans les années 740, son père, Pépin le Bref, est ce qu'on appelle un maire du palais. Les maires du palais, également appelés préfets du palais, sont les plus hauts dignitaires des royaumes francs, juste après les rois. Occuper cette fonction vous accorde certes une place de premier choix, mais elle ne fait pas de vous un souverain. Quand Charlemagne naît, son père ne dirige aucun royaume et il est soumis à une dynastie, les Mérovingiens. Ce n'est qu'en 751 que la situation évolue en faveur de Pépin le Bref et de sa descendance. Il renverse le pouvoir, écarte le roi en place, le dénommé Childéric III, et se fait reconnaître comme roi des Francs par le pape Zacharie. Avec ce couronnement, les Mérovingiens disparaissent à jamais et la dynastie carolingienne voit officiellement le jour. Charlemagne fait donc un pas immense vers son futur rôle de roi. En attendant, ses parents, Pépin le Bref et Bertrade de Lens, que nous connaissons davantage sous son surnom de Berthe au grand pied, au singulier s'il vous plaît, le prépare à devenir un souverain aguerri. L'art des combats, la préparation physique, constituent l'essentiel des enseignements qu'il reçoit. Si ses prédécesseurs mérovingiens savaient pour beaucoup lire et écrire, pour Charlemagne, il en est autrement. Il peine à déchiffrer les écrits. Certains disent même qu'il est analphabète. Car dans les années 740-750, la priorité de conserver l'immense territoire des Francs et même de l'agrandir. Alors, négocier, se montrer féroce au combat, s'avère être des qualités bien plus utiles à développer que de savoir se servir d'un stylet ou d'une plume. Et ce choix porte ses fruits puisque très tôt, Charlemagne se distingue par sa capacité à être un meneur d'hommes inégalable. Mais à la succession de Pépin le Bref, il n'est pas le seul candidat légitime. En 768, quand le premier roi carolingien s'éteint, ils sont deux à devoir se partager le royaume. Carloman, l'un des frères de Charlemagne, se voit léguer le sud de la Neustrie, la Bourgogne et la Provence. Il établit son siège à Soissons. Charlemagne, quant à lui, s'empare des territoires dans la partie ouest du monde franc sous la forme d'un grand arc de cercle allant de la Thuringe au Poitou. Penser que les deux frères vont gouverner conjointement en bonne intelligence est un vœu pieux, certes, mais peu viable. Charlemagne et Carloman ne s'apprécient guère, et sur le sujet, l'un comme l'autre ne compte absolument pas faire preuve de magnanimité. Charlemagne, notamment, voit d'un très mauvais œil ce frère qui pourrait rapidement prendre l'ascendant sur lui. Carloman est marié à plusieurs fils qui assureraient la continuité de la dynastie carolingienne quand leur père serait amené à livrer son dernier souffle. De son côté, Charlemagne n'est ni marié ni père d'héritier mâle qui rassurerait aussi bien les grands du royaume que le peuple des Francs. Il doit donc rapidement trouver une solution pour ne pas être distancié par son frère en tout point parfait. Et c'est auprès de sa mère qu'il va trouver refuge. Il se rapproche de Berthe, qui a certes de grands pieds, au moins un, mais surtout le bras long et des idées par centaines. C'est elle qui le pousse à épouser une princesse italienne et rentrer dans le rang. Mais la relation avec son frère ne s'arrange pas, bien au contraire. Les deux héritiers du trône des Francs pourraient en venir aux mains, mais le destin la reprend la main et en décide autrement. Oui, en 771, à la surprise générale, Carloman meurt. Son épouse se réfugie en Italie avec ses enfants. Charlemagne ne pouvait rêver mieux. En écartant ses neveux de la succession, il devient le seul roi des Francs. Il ne compte pas laisser passer cette occasion de gouverner sans aucun rival. Et il compte bien éliminer tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent représenter une menace à son hégémonie. Une seule remarque désobligeante, et Charlemagne prend des décisions radicales. Voyez plutôt, le roi des Francs est souvent présenté comme un fils attentif au bien-être de ses proches, notamment sa maman. Il n'en est rien. Sitôt son frère Carloman éteint à jamais, Charlemagne se sépare non seulement de sa promise italienne, mais également de sa mère Berthe. Il fait en sorte qu'elle se retire dans son palais monastère de Choisy-au-Bac, où elle livre son dernier soupir le 12 juillet 783. Charlemagne accepte que ses funérailles soient organisées à Saint-Denis, mais il n'y prend pas vraiment part. C'est l'une de ses sœurs, Gisèle, qui mène le deuil. Charlemagne, lui, pense déjà à un tout autre sujet, celui de son expansion territoriale. Car le roi des Francs, tout au long de son règne, n'a de cesse de vouloir accroître son royaume. Toujours plus, rien d'étonnant pour un roi surnommé Charles le Grand. Et pour y parvenir, le roi ne lésine pas sur les moyens. Il le sait, sa force et son armée. On l'appelle l'Ost et elle se constitue de tous les hommes libres, qu'ils soient francs ou non. Durant son long règne de 768 à 814, cette armée a été convoquée chaque année, le plus souvent au printemps. Seules trois saisons ont été exemptées, 790, 802 et 807. En majorité, l'armée de Charlemagne se compose de fantassins légers. Chacun possède un équipement simple, une lance, une épée courte, un bouclier, parfois un arc, car ce matériel n'est pas onéreux et permet donc à un maximum de soldats de s'engager dans l'armée de Charlemagne. Plus tard, pour mener des batailles expéditives, le roi des Francs va privilégier des militaires à cheval et plus lourdement équipés. Mais alors une question reste en suspens. Combien sont-ils à accepter de mettre leur vie en danger au service de leur souverain? Les chiffres varient, comme souvent pour Charlemagne, d'une source à l'autre, d'un camp à un autre. Comme l'explique notre invité, l'historien Bruno Dumézil, dans sa nouvelle biographie, certains évoquent les 100 000 à 200 000 militaires, là où la réalité se rapprocherait davantage de 20 000 à 30 000 hommes, 10 fois moins donc. Plus les années défilent et plus Carolus Magnus semble préférer des hommes expérimentés, à cheval, disposant d'un équipement plus robuste et surtout habitant non loin des zones de conflit. La réactivité de ses troupes est pour lui primordiale, parce qu'il n'y a rien de pire pour une armée que de s'enliser dans des guerres sans fin, car autant les troupes peuvent survivre grâce à la nourriture que les soldats ont emportée avec eux durant le printemps et l'été, autant il apparaît bien plus incertain de passer l'hiver en comptant uniquement sur les pillages des villages dans lesquels ils ont installé leur campement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce règne est placé sous le signe de la guerre. Charlemagne préfère renvoyer ses troupes chez elle pendant les trêves hivernales pour ménager ses soldats et les convoquer de nouveau au printemps pour espérer remporter les batailles avant l'hiver suivant. Pour faciliter la tâche de son armée, le roi et futur empereur redoublent d'inventivité. Il bâtit des ponts pour traverser plus facilement les fleuves. Il fait construire des églises et des monastères sur les principales voies d'invasion pour collecter et stocker de la nourriture. Il exhorte ses troupes à aménager des fortifications de bois ou de terre pour qu'une petite partie de ses soldats établissent leur camp pendant l'hiver. Et ces différentes initiatives fonctionnent. Charlemagne se révèle être un stratège hors pair et un chef de guerre redoutable. Là où son père, Pépin le Bref, n'a jamais réussi à soumettre le duché d'Aquitaine entre la région de Toulouse et celle de Poitiers, Charlemagne, lui, met moins d'une année pour y parvenir. Idem pour la Vasconie au sud de la Garonne, que le roi des Francs dirige rapidement. Place ensuite au royaume lombard. En l'an 773, Charlemagne et ses troupes assiègent la capitale, Pavie. Ils y restent pendant un an avant que la ville ne se rende. Didier, jusqu'alors roi des Lombards, souhaitait en effet réhabiliter les fils de Carloman à la tête du royaume des Francs. Hors de question pour Charlemagne de devoir partager son trône si durement acquis. Désormais, son objectif principal est clair, il doit éliminer la famille de son frère Carloman. Je crois que vous l'avez compris, durant tout son règne, Charlemagne n'a de cesse d'agrandir son territoire et de l'unifier. Il parvient à prendre la tête de la Bavière face à son cousin, qu'il considère comme un traître, mais surtout, pendant trois décennies, il combat sans relâche les soldats de la Saxe. Chaque année, Charlemagne envoie ses troupes pour terrasser ses militaires et s'emparer de ce territoire. Ce n'est qu'en 804 que son annexion est officielle. L'empereur, n'hésitant pas à torturer, massacrer ou déporter tous ceux qui montrent de la résistance. Charlemagne ne correspond donc pas totalement à l'image de ce roi bienveillant qui nous a été souvent transmise au fil des siècles. Physiquement notamment, il en impose et peut faire peur. On sait ainsi qu'il mesure 7 fois la taille de son pied, soit probablement plus d'1,80 m. C'est donc un homme très grand pour son époque. Par ailleurs, grâce à Eginhard, son biographe officiel, on en apprend davantage sur son apparence. Son nez serait un peu long, son cou un brin empâté et son ventre proéminent. Ce qui ne l'empêche pas de se distinguer dans l'eau, puisque Charlemagne se révèle être un remarquable nageur, mais pas seulement. Il se distingue très tôt pour son talent de chasseur. Considéré comme un roi féroce, Charlemagne s'empare ainsi de nombreux territoires, de la mer Baltique à l'Adriatique. Il retrouve l'empire que possédaient les Mérovingiens au sommet de leur dynastie. Cependant, cela ne suffit pas. Il ne se satisfait pas de ses conquêtes territoriales. Il veut aussi briller par la société qu'il s'efforce de développer dans son royaume. C'est l'avènement de ce qui sera appelé plus tard la Renaissance carolingienne. Charlemagne, je vous l'ai raconté, ne s'est pas distingué durant son enfance par un apprentissage intellectuel très poussé. Il veut donc rattraper son retard. Il se passionne désormais pour la littérature, les lettres, les mathématiques. Comme il dort peu, il n'hésite pas, par exemple, à réveiller ses pairs pour échanger avec eux sur des notions scientifiques. Si son objectif est d'unifier son royaume, il veut surtout y imposer la religion catholique. Pour cela, il doit avoir le plein soutien du pontife, l'évêque de Rome, le pape. Jusqu'en 795, Charlemagne entretient de saines relations avec Adrien Ier, mais ce pape tient à garder son autonomie. Les choses évoluent avec l'arrivée de Léon III. Il est accusé par l'aristocratie de dépravation. Ses adversaires ont même réussi à le faire chuter de son cheval pour tenter de lui couper la langue et lui crever les yeux. Charlemagne prend fait et cause pour ce nouveau pontife et lui envoie ses armées pour le réhabiliter. Lui-même arrive à Saint-Pierre de Rome en décembre de l'an 800. Le 25 décembre, Léon III accepte alors de le nommer empereur d'Occident, comme cela se faisait il y a plusieurs siècles. Le dernier empereur, Romulus Augustule, a été déposé il y a plus de 350 ans, en 476. Charlemagne reçoit par ailleurs du patriarche de Jérusalem les clés du Saint-Sépulcre et l'étendard de la ville sainte. Le roi des Francs se voit ainsi reconnu comme le protecteur de la Terre sainte. Plus rien ne semble arrêter l'ambition de Charlemagne. En haut des documents officiels que sa chancellerie édite, on peut lire à présent « Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'Empire romain et par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards. » Oui, rien que ça. Charles veut par la suite assainir et moderniser l'administration dans l'Occident européen. Il met en place un système monétaire autour du denier d'argent qui concurrence dès lors le sou d'or byzantin. Il divise son royaume en comtés. Pour éviter les abus de pouvoir des seigneurs locaux, Charles fait appel aux missi dominici, traduisés « envoyés du maître », qui vont tous se surveiller. Il légifère beaucoup, notamment pour imposer les réformes ecclésiastiques. Avec Charlemagne, tout se passe par écrit. Mettre sur papier les lois, les ordonnances, c'est la seule façon pour lui de faire appliquer ces textes primordiaux pour son empire. Comme son père et son oncle avant lui, Charlemagne veut donc réformer l'Église. Les clercs occupent tout particulièrement son attention. Il leur rappelle, dès qu'il le peut, des règles évidentes. Interdiction de se marier ou même de vivre en concubinage, de chasser ou de porter les armes, de vendre les biens d'église ou de manier de l'argent. Évidemment, ils doivent refuser toutes sortes de vices que sont notamment la débauche ou encore l'ébriété. Dans le domaine des lettres, Charlemagne se distingue également. Il crée l'Académie Palatine. L'idée est de s'entourer des personnages les plus érudits du moment. En voici quelques-uns pour vous faire une idée. Les grammairiens lombards, Pierre de Pise et Paulin d'Aquilée, l'historien Paul Diacre, le théologien Visigoth Théodulf, l'astronome irlandais Dungal, tous sont fortement incités à le rejoindre régulièrement. Charlemagne, à travers cette renaissance carolingienne, peut intervenir dans le moindre détail. Si je vous dis écriture caroline, ça vous parle ? Certains pensent que cette écriture, que l'on retrouve aujourd'hui sous le nom de Times New Roman, a été inventée par Charlemagne. C'est faux, elle existait déjà. Le roi des Francs, des Lombards et empereur d'Occident l'a simplement développée. Plus petite, elle permet d'économiser du parchemin qui avait déjà remplacé le papyrus, ce qui fait le bonheur des moines copistes. Désormais, ils passent le plus clair de leur temps à recopier des textes liturgiques plutôt que de travailler la terre. En tout, on estime entre 50 et 80 000 le nombre de manuscrits reproduits sous le règne de Charlemagne et de ses deux successeurs. Sur le papier, Charlemagne semble donc vivre un parcours idéal, tout lui réussit. Et pourtant, son règne rencontre de sérieux obstacles que lui et son entourage s'efforcent de minimiser, voire de totalement occulter. Prenez l'exemple de la guerre. Dans son armée, les guerriers sont pour beaucoup des ivrognes. Pire, ils s'adonnent au vol, aux violences et aux viols. Mais tous ces défauts sont soigneusement oubliés et ne figurent dans aucun récit. Car soyons très honnêtes, Charlemagne, son entourage, comme ses biographes, ont développé le maniement et le détournement de l'information. Tout ce qui peut nuire à l'empereur n'est pas envisageable. Aux yeux de Charlemagne, cela n'existe même pas. Charlemagne est devenu roi puis empereur dans une période délicate où chaque adversaire fait tout pour ne pas se soumettre à la domination du roi des Francs. Souvent, Charles le Grand met en place une stratégie pour ne jamais entacher sa réputation, quitte à se jouer de l'histoire factuelle et inventer une version idéalisée des événements. Prenons l'exemple de ce surnom de père de l'Europe. Chaque année est remis le prix international Charlemagne à Aix-la-Chapelle, une récompense qui met en valeur une personnalité s'étant illustrée dans l'unification de l'Europe. 1200 ans après la mort de Charlemagne, dans l'esprit de la population, l'empereur Charlemagne peut donc être considéré comme le père fondateur de l'Europe. La vérité, elle, est bien moins tranchée. Tout d'abord, l'Europe de Charlemagne est bien plus petite que l'Europe actuelle. L'Angleterre, la Hongrie, la Pologne n'ont jamais obéi à l'empereur, pas plus que la péninsule ibérique. Et puis n'oublions pas que Carolus Magnus, pour parvenir à engrandir son empire, a soumis un certain nombre de royaumes à son autorité, mais par des guerres longues et sanglantes, bien loin des valeurs pacifiques que cherche à récompenser ce prix Charlemagne. Pas un saint Charlemagne ? Ah, assurément, non. D'ailleurs, si l'empereur germanique Barberousse le fait canoniser, l'Église refuse quant à elle d'en faire un saint, car elle n'accepte pas la conversion forcée des Saxons. Pourquoi donc présenter Charlemagne comme cet empereur bienveillant à la barbe fleurie ? Parce que cet attribut lui donne un caractère de sagesse. Une pure invention pour cultiver sa légende, car Charlemagne semble avoir été plutôt de nature colérique et surtout, d'après son biographe Eginhard, l'empereur était un berbe. Les siècles qui ont suivi de nombreux symboles à la gloire de Charlemagne voient le jour, ce qui n'aurait pas été pour lui déplaire. Notre invité Bruno Dumézil en compile quelques-uns dans son livre. Vers 1200, un blason de Charlemagne est inventé. Pour le sacre de Philippe III le Hardy en 1271, apparue joyeuse, l'épée de Charlemagne mentionnée dans la chanson de Roland, mais que nul n'avait jamais vue. Ce curieux objet servirait à tous les sacres jusqu'au XIXe siècle. Dans les années 1370, Charles V fait également réaliser un sceptre d'or portant à son sommet une représentation de Charlemagne. À partir des années 1450, le Parlement de Paris siège sous un grand retable figurant d'un côté Saint-Louis faisant un geste de clémence, de l'autre Carolus Magnus tenant l'épée. La justice royale se trouve ainsi placée entre les figures de la miséricorde et de la force. Charlemagne s'éteint en 814. Il laisse derrière lui un empire fragile pour lequel ses héritiers ne manqueront pas de se déchirer. Mais l'empereur, qui a tout fait pour régner, part surtout entouré de légendes et de rumeurs. Il n'y a pas à dire, c'était un sacré ce Charlemagne.
Europe 1, historiquement vôtre.